Deuxième partie, chapitre 4, Blida. 8 février. Me voici à Blida, logé, installé, écrivant. J'ai fait la route à grande vitesse dans une diligence où tout le monde, excepté moi, parlait provençal, ce qui m'a permis de ne pas dire un seul mot pendant un trajet de 5 heures. Cette faculté de se taire est la première liberté que je réclame en voyage, et je voudrais qu'il fût écrit dans un article spécial du droit des gens que chacun est tenu de la respecter chez les autres. À peine ai-je eu le temps d'entrevoir Birmandreis, tandis que l'attelage en traversait au galop les pentes ravinées. Mais les chevaux, toujours épuisés, après avoir escaladé puis descendu la route en colimaçon du Sahel, soufflent ordinairement 3 minutes devant la jolie fontaine arabe de Bir Kladem. Elle est restaurée, recrépie, mais sans que le style en soit altéré, et j'ai pu, en examinant comme une ancienne connaissance cette élégante façade de marbre dorée par le soleil, rappeler à moi de vieux souvenirs africains qui datent de notre premier voyage. La matinée était fraîche, l'air très vif, le ciel admirablement limpide et d'un bleu ferme. Je pouvais apercevoir et mesurer d'un coup d'œil le périmètre de cette plaine magnifique qui fut avec la Sicile le grenier d'abondance des Romains et que deviendra le nôtre quand on aura ses légions de laboureurs. J'aime les plaines et celle-ci est une des plus grandioses, sinon des plus vastes, que j'ai vues de ma vie. On a beau la parcourir à la française sur une longue chaussée civilisée par des ornières, y trouver des relais, des villages et de loin en loin des fermes habitées, c'est encore une vaste étendue solitaire où le travail de l'homme est imperceptible, où les plus grands arbres disparaissent sous le niveau des lignes, très mystérieuses comme tous les horizons plats, et dont on ne découvre distinctement que les extrêmes limites. À droite, la ligne abaissée du Sahel. Au fond, les montagnes de Miliana, perdues dans les bleus légers. Et à gauche, le haut escarpement de l'Atlas, tendu d'un vert sombre avec des neiges partout sur les sommets. Il n'y avait pas un nuage autour de cette arête étincelante. À peine y voyait-on, mais à mi-côté, un reste de brouillard qui s'évaporait des marins. Il n'y avait pas un nuage autour de cette arête étincelante. À peine y voyait-on, mais à mi-côte, au reste le brouillard qui s'évaporait des ravins et se roulait en flocons blancs comme la fumée d'un coup de canon. La partie basse de la plaine est cachée sous l'eau. Beaucoup de fermes ont l'air d'être bâties sur un étang et le marais d'Oued El Laghen, à peine humide, pendant l'été, inonde en ce moment 2 lieues de pays. J'ai vu Boufarik en pleine prospérité. Plus de malades, plus de fiévreux. Les Européens s'y portent aujourd'hui mieux qu'ailleurs. Et c'est là de préférence que les convalescents des environs vont purger leur fièvre d'Afrique. Pendant que tant d'hommes y mouraient empoisonnés par la double exhalaison des eaux stagnantes et des terres remuées, les arbres qui vivent de ce qui nous tue y poussaient violemment comme dans du fumier. Imagine à présent un verger normand, planté de peupliers, de trembles et de saules, soigné, fertile, abondant en fruits, rempli d'odeurs d'étables et d'activités champêtres, la vraie campagne et le vrai campagnard. Le passé de ce petit pays en exploitation définitive de sa richesse, oh, nous n'y pensons plus. Nous oublions qu'il a fallu, pour se l'approprier, 10 années de guerre avec les Arabes et 20 années de lutte avec un climat beaucoup plus meurtrier que la guerre. Le voyageur s'en souvient seulement en passant par les cimetières ou quand il s'arrête à Beni Mered au pied de la colonne du sergent Blandan. La véritable histoire de la colonie est ici comme partout déposée dans les sépultures. Que d'héroïsme, mon ami, connus ou inconnus, presque tous oubliés déjà, et dont pas un cependant n'a été inutile. À 11 heures, j'étais à Blida. J'ai trouvé Lavandel, qui depuis l'envoi de sa lettre m'attendait à chaque arrivée des voitures. Je l'ai reconnu de loin, sa casquette jaunâtre, la même qu'il portait il y a 4 ans. Il fumait sa petite pipe courte à tuyaux de cerisier sans bouquin, et toute sa personne a conservé ce même air un peu bizarre, qu'il est également impossible de définir et d'oublier. J'ai loué la maison proposée par Vandel, et il a été convenu que nous y camperions ensemble. Cette maison est située à l'extrémité de la ville, sur une place déserte, plantée d'orangers, et séparée seulement des grandes orangeries extérieures par le mur fortifié du rempart. Nous avons d'un côté la vue de la plaine, de l'autre celle de la montagne, que nous croirions toucher de la main tant elle est proche et domine de haut la ville assise à ses pieds. Quoique la terrasse en mauvais état ait laissé couler la pluie dans toutes les chambres, ce logis paraît très habitable. Un ruisseau qui passe au-dessous de la maison même sort de terre à ma porte et fait entendre parmi les cailloux le petit gargouillement continu d'une eau courante. À 6 pas de là pousse un grand cyprès à feuillage en pointe, à tronc unique. Il reçoit le soleil toute la journée et dans toute sa hauteur. Son ombre, qui fait autour du tronc sa révolution complète, dessine sur le terrain plat un cadran parfaitement régulier. J'embarquerai les divisions par des cailloux, et ce sera mon horloge. Blida, février. Vandel n'a pas plus changé d'habitude qu'il a changé de physionomie et de costume. Il ne ressemble à personne, mais il ressemble et ressemblera toujours à lui-même. Il est singulier, mais inaltérable. Il y a bien quelques fils gris mêlés à sa chevelure, qu'il porte coupé ras et dans sa barbe, qu'il laisse au contraire croître à volonté, mais ces légers changements sont presque invisibles. Quant à son visage, il est de ceux qui n'ont plus rien à perdre ni en fraîcheur, ni en embonpoint. Aussi brun qu'un homme blanc peut l'être, aussi maigre que peut l'être un homme en santé, le voyageur est maintenant à l'épreuve de la fatigue, du soleil et des années, et dans un état à les braver avec sécurité. Il ne paraît plus qu'il ait été jeune. On ne verra jamais dans quelle mesure il vieillit. Je défie dorénavant qu'on lui donne un âge. Toujours bien portant, d'autant mieux qu'il est plus sec, alerte et maître de ses jambes, comme un excellent piéton devenu, par nécessité, cavalier médiocre, Vandel ne prend d'autre soin de ce qu'il appelle son enveloppe que ce qui consiste à la rendre utile au service qu'il attend d'elle, et tu peux imaginer s'ils sont excessifs. Son unique souci, c'est de diminuer là-dedans et d'épaissir le dessus. En d'autres termes, de réduire ses muscles et d'endurcir sa peau. Il a sur ce sujet une philosophie pratique qui lui est propre. « N'est-il pas pitoyable, me disait-il un jour, qu'un méchant drap comme celui que je porte soit plus solide qu'une peau d'homme fabriquée par des époux robustes ? Soyez tranquille, je saurais me rendre imperméable, insensible, inusable et résistant comme un cuir de bœuf. » À en juger par son visage et par ses mains, il a réussi. Je lui disais aujourd'hui, « Je crois, mon ami, que c'est vous qui userez le temps. La vie vous mord, mais comme le serpent qui mord la lime. »« Ça n'empêche pas, m'a-t-il répondu avec inquiétude, que le mécanisme est fatigué. » Ce que Vandel appelle le mécanisme, c'est son cerveau et les ressorts de sa vie morale. Il fait ainsi des abus de mots par je ne sais quel respect pudique pour les idées, car il est au fond très spiritualiste, comme tous les solitaires. T'ai-je dit comment j'ai connu Vandel ? C'était à mon second voyage et dans une excursion que je faisais vers le sud. Nous traversions en caravane un pays montueux et boisé, avec un convoi composé de mulets au lieu de chameaux. Toute cette nombreuse cavalcade aux sabots durs avait, pendant un long jour de printemps, foulé les petits sentiers caillouteux de la montagne. Il pouvait être 5 heures et nous approchions du bivouac. La caravane entière débouchait alors sur des plateaux couverts de taillis blancs et de buissons, sans route, mais sillonnés de percées étroites où nous nous aventurions isolément, chacun comptant sur son cheval, pour suivre d'instinct la piste odorante des cavaliers qui tenaient la tête. Je marchais à l'arrière-garde, et mon cheval était de ceux qu'en pareil cas on n'a pas besoin de diriger. Il se mit à hennir, puis à s'agiter, et je vis au-dessus des broussailles paraître un cavalier que je ne reconnus point pour un des nôtres. Le nouveau venu, grand jeune homme en tenue de voyageur, montait une bête fort maigre, mal harnachée à la rame et d'un blanc sale. Maigre lui-même, efflanqué, brûlé comme un saharien, le seuil des tailles significatif qui racheta la pauvreté manifeste de son équipage et rappela l'homme à peu près civilisé, c'est qu'au lieu d'armes, il portait en bandoulière quelque chose comme un long baromètre contenu dans un fourreau de cuir et un volumineux cylindre en fer blanc. « Pardon, monsieur, me dit-il en regardant sa distance, votre cheval prend-il feu pour les juments ?»« Ah, beaucoup, monsieur, lui répondis-je constamment. Alors, en ce cas, je vous précède. » Et, sans plus attendre, il donna un coup de houssine à sa monture, et la mit au trot. Il se tenait à l'anglaise, ne quittant pas la selle, et se soulevant seulement, par un mouvement cadencé des genoux, sur ses larges étriers arabes. Je le vis disparaître, emboîté jusqu'au-dessus de la taille, dans le dossier profond de la selle, après quoi je continuai d'entendre pendant une ou deux minutes le bruit régulier de son baromètre frappant contre son herbier. En arrivant au bivouac, je retrouvai le personnage fumant sa pipe et causant. On nous présenta l'un à l'autre et l'on nomma M. Louis Vandel. J'avais beaucoup entendu parler de lui. Partout, on me l'avait cité pour ses courses aventureuses et pour la singularité de sa vie. Je pus donc lui dire sincèrement le prix que j'attachais à cette rencontre. Notre connaissance se fit au bivouac et le soir même. Ce fut moi qui le logeai comme ayant le moins de bagages et le plus de place à donner dans ma tente. Il y déposa son porte-manteau, enfin je veux dire un burnous noir roulé et ficelé de courroie, sa selle arabe et ses instruments. Il en composa son lit, sa couverture et son oreiller. La nuit fut magnifique. Je la passai presque tout entière à l'écouter. « Voyez-vous, me disait-il, ce pays est le mien. Il m'a adopté. Je lui dois une indépendance sans exemple, une vie sans pareille. Voilà bien des faits que je paierai, si je le puis, par un petit travail qui sera l'œuvre de mon repos. Communément, on croit que je flâne. Mais peut-être prouverai-je un jour que je n'ai pas tout à fait perdu mon temps, et ce baromètre qui m'a valu mon nom arabe, Boudjaba, l'homme au canon de fusil, me paraît plus utile entre mes mains qu'un vrai fusil. » Il était sur pied, au jour levant, appelant sa jument qu'il avait lâchée sans autre précaution dans le bivouac. Il la sella, la sangla lui-même, après l'avoir fait déjeuner d'un peu d'orge qui restait dans un des compartiments de sa djémira, sa sacoche, et les autres étaient pleins d'échantillons de pierre. Nous partîmes, et Vandel nous accompagna jusqu'à la grande halte. De temps en temps, il mettait pied à terre lorsqu'il rencontrait un point d'appui vertical qui lui convint. Il y suspendait son baromètre, notait une observation sur un vieux cahier en lambeaux, puis il activait le pas de sa bête, qui jamais ne trottait bien vite, et rejoignait la queue du convoi. Je vous quitte ici, me dit-il, quand on se remit à cheval pour l'étape du soir. Je dois coucher là-bas, vous voyez cette montagne en bec d'aigle. Puis il me tendit la main et me dit, je voudrais vous offrir quelque chose en souvenir de moi. Et il tira de sa poche un bâton de sucre de réglisse noir, qu'il rompit en deux, plus une pelote de ficelle dont il me donna la moitié. Voici pour vous désaltérer quand vous aurez trop soif, ajouta-t-il, et pour réparer votre équipage si la chaleur fait casser vos sangles. Oh, cela peut vous rendre un petit service à l'occasion. Maintenant, au revoir, car à moins que vous ne quittiez le pays bientôt, il est probable que nous nous reverrons. Au revoir, lui dis-je, et je lui serrai cordialement la main. Nos chevaux, qui pendant ce temps-là fraternisaient, obéirent à l'éperon et nous séparèrent. Nous étions en plaine et je pus apercevoir pendant une grande heure la croupe blanche de son cheval et son herbier qui brillait au soleil comme un miroir. Ainsi qu'il l'avait prévu, je l'ai rencontré deux fois depuis dans ce même voyage. La première au bord d'une source où tout seul il faisait sa grande halte, la seconde dans un douar où nous compagnons, où lui-même arriva vers minuit. J'entendis un grand tumulte parmi les chiens et le pas d'un cheval qui s'arrêtait. 2 minutes après, quelqu'un souleva la toile de ma tente et je vis paraître Vandel. Il éclaircissait alors un point d'histoire peu connu sur le séjour de la 3e légion romaine dans la province et depuis un mois il rôdait dans les environs. Aujourd'hui, comme alors, il continue de battre le pays, toujours loin des villes, en dehors des chemins fréquentés, toujours seul, et ne ralliant les douars que pour le coucher. La saison lui est indifférente, d'abord, je te l'ai dit, parce qu'il est aussi peu sensible à l'extrême froid qu'à l'extrême chaleur, et puis parce qu'il a organisé son travail de manière à employer le printemps et l'automne à de longues expéditions, l'été à de petites promenades circulaires, et l'hiver à ce qu'il appelle son œuvre de cabinet. Cela veut dire que pendant les grandes pluies, il s'enferme dans le premier douar venu, il y reste 8 jours, 15 jours s'il le faut, roulé dans son burnous et écrivant. De temps en temps, il rassemble ses matériaux très compliqués, très divers, quelquefois très abondants, et les dépose au poste le plus proche, entre les mains d'un ami sûr. Il a dispersé de la sorte son trésor aux 4 coins de l'Algérie, et le jour où il se décidera peut-être à le réunir, il lui faudra entreprendre un dernier voyage qui ne sera pas le moins long de tous. Vandel est allé partout où peut aller un voyageur intrépide et inoffensif. Il a tout vu ce qui mérite d'être vu. Il sait, sur les 3 provinces, tout ce qu'une mémoire encyclopédique est capable de retenir. Grâce à la variété de ses connaissances, à l'étendue des services qu'il est en mesure de rendre, mais d'abord grâce à la bizarrerie de ses allures et à l'étrangeté de sa vie, il est aussi bien accueilli des Arabes que doit l'être un derviche doublé d'un tleb, d'un médecin. Aussi se montre-t-il impunément là où on ne passerait pas un bataillon, n'ayant rien à craindre ni jour ni nuit, si ce n'est la distraction d'un coupeur de bourse. Son dénuement fait sa sauvegarde. « Oh, le plus sûr, me disait-il à ce propos, est de ne tenter personne. 1000 cavaliers ne sauraient dépouiller un homme nu. » Il campait à peu de lieues de Taguin quand la colonne du duc d'Aumale y surprit la Smala. Il a suivi, sans y prendre part autrement qu'en spectateur, le long siège de Zahad Shah. Depuis et tout récemment, il a pris un jour qu'il cheminait chez les Ouled Neil entre le Jelfa et Sharef, qu'une armée se rassemblait devant El Aghouat. Aussitôt, il doubla les étapes de peur d'arriver trop tard, et il atteignait le sommet des collines au moment où partaient les premiers coups de canon du siège. Alors, c'est lui qui me l'a raconté, Il mit pied à terre, et du haut de son observatoire, il assista aussi commodément que possible à la bataille. J'ai vu dans son portefeuille les croquis faits pendant cette journée. Il a commencé par établir le plan de la ville et le cadre panoramique de l'action. Puis, au fur et à mesure des manœuvres, qu'il discernait très bien, il indiquait, au moyen de lignes pleines ou d'un pointillé de crayon noir, le mouvement des corps en marche ou la position momentanée des bataillons d'attaque. À chaque coup de canon tiré, le dessinateur exprimait le jet rapide et la forme exacte de la fumée à l'aide d'un léger frottis de crayon blanc. La ville prise, il plia bagage. Il y pénétra aussitôt qu'il le put faire, armé cette fois d'un fusil qu'on lui prêta. Puis quand il eut vu ce qu'il voulait voir et noté ce qui lui parut instructif, il partit, se remit en course vers le nord et fit une pointe audacieuse à travers les Oulen-Nail jusqu'à Boussada. « À propos, lui demandai-je aujourd'hui, par quel hasard vous trouvez-vous donc à Blida ?»« Oh, par hasard, mon cher ami, me dit-il, à 10 lieues d'ici dans la montagne pendant que je sommeillais apparemment. » Ma jument, qui de loin flairait une écurie, a tourné à gauche au lieu de tourner à droite et m'a conduit à la porte du ravin. En définitive, je n'en suis pas fâché, ajouta-t-il avec amabilité, ni la pauvre bête non plus. Blida, février. L'étranger t'appelle une petite ville. Blida. Et moi, Blidien, je t'appelle une petite rose, Ourida. Voilà tout ce qui reste de Blida. Un distique de forme amoureuse, un nom charmant qui rime avec rose. La ville n'existe plus. Le nom résonne encore sur les lèvres des Arabes comme un souvenir tendre et regretté d'anciennes délices. Blida était en effet la ville par excellence des roses, des jasmins et des femmes. Du bord de la plaine où l'on apercevait ses tours et ses maisons blanches, cachées à demi dans des forêts d'arbres aux fruits d'or, elle apparaissait précisément en face de Coléa la Sainte, comme une image anticipée des joies permises et promises du paradis. Il y avait là des jardins constamment verts, des rues tapissées de feuillage et plus ombreuses que des allées de bois, de grands cafés pleins de musique, de petites maisons habitées par des plaisirs délicats, des eaux partout et des eaux exquises. Puis, pour achever, par les odeurs, le bien-être de ce peuple sensuel, la continuelle exhalaison des orangeries en fleurs y faisait de l'atmosphère tout entière un parfum. On y fabriquait des essences, on y vendait des bijoux. Les gens de guerre venaient s'y délasser, les jeunes gens s'y corrompre. Les marabouts, dont ce n'était pas la place, habitaient à l'écart dans la montagne. Les mosquées n'y figuraient que pour mémoire et comme un chapelet dans la main des débauchés. Blida ressemble aujourd'hui, trait pour trait, à une mauresque que je vois se promener dans la ville, qui a été belle et qui ne l'étant plus, s'habille à la française avec un chapeau de mauvais goût, une robe mal faite et des gants fanés. Plus d'ombre dans les rues, plus de café, les trois quarts des maisons détruites et remplacées par des bâtisses européennes, d'immenses casernes, des rues de colonies, et au lieu de la vie arabe, la vie des camps, la moins mystérieuse de toutes, surtout dans la recherche de ses plaisirs. Ce que la guerre a commencé, la paix l'achève. Le jour où Blida n'aura plus rien d'arabe, elle redeviendra une très jolie ville. La nouvelle Blida fera peut-être oublier l'ancienne, le jour où ceux qui la regrettent auront eux-mêmes disparu. D'ailleurs, il lui restera tant de choses pour l'embellir et la faire prospérer. Sa situation d'abord, si parfaite qu'on y rebâtirait encore si un nouveau tremblement de terre démolissait la ville actuelle. Un sol fertile, de belles eaux mieux distribuées que jamais, que l'industrie française utilise, où les Arabes n'ont vu qu'un agrément et où nous trouvons des fortunes. À la porte de la ville, une plaine admirable et la montagne au-dessus d'elle, un climat très doux, juste assez d'hiver pour aider les cultures européennes, un été qui semble propice au tropical, un air salubre, peu de vent du désert, tous ceux de la mer et venant sans obstacle, depuis l'est jusqu'à l'ouest, en passant par le nord plein, pour horizon 300 000 hectares de terre attendant la charrue, enfin, luxe assez rare, des orangeries fort amoindries, dit-on, mais qui font encore de cet ancien jardin des Hespérides le premier pays des oranges. Ce qu'il y avait de délicieux dans ce lieu de plaisance étant évanoui, il faut bien se consoler par le spectacle de l'utile. L'avenir effacera le passé, je le répète, mais surtout il excusera le présent, qui, cela soit dit sans injustice, a besoin d'être excusé. En attendant, j'erre au milieu de la ville informe, ne voyant pas encore ce qu'elle sera, mais cherchant ce qu'elle a cessé d'être, et se l'imaginant plus qu'avec effort. Je m'assieds chez les barbiers, je cause avec les marchands d'herbes, je vais au marché français voir les premières fleurs, au marché arabe regarder les négresses, les gens des tribus et les montagnards, qui descendent tous les matins poussant devant eux des troupeaux d'ânes chargés de bois mort et de charbon. Il y a là des cafés encore mais modernes, et quels cafés! Ce que leur clientèle offre en général le plus choisi, ce sont les agents de la police à l'hygiène. Ils sont vêtus à la turque et fort propres. Ils portent, comme dans tous les pays du monde, les deux insignes de la loi répressive, le bâton et le poignard qui vaut l'épée. Quelquefois, un magistrat à longue pelisse, caddie ou autre, y vient débonnairement prendre son café. Il a toujours entre les doigts trois choses qui ne le quittent pas. Sa pipe en jasmin, son chapelet et un mouchoir de Tunis. Il reçoit au passage quelques accolades, et le Kawadji lui baise l'épaule. Quand il arrive que par hasard la société soit nombreuse et de qualité, alors le Kawadji paraît avec un flacon d'eau de rose, de jasmin ou de benjoin, fermé comme une poivrière par un bouchon de métal percé de trous. Il fait le tour de l'assemblée et très gravement, comme s'il s'agissait d'une cérémonie, il asperge les visages et les habits d'une fine pluie d'essence. Cette galanterie coûte d'ordinaire quelques menues monnaies offertes sous forme de remerciements. De temps à autre, je me donne le plaisir de sortir par Bab el Sept, et tout à coup, comme si c'était la première fois que je le visse, je regarde la plaine. L'horizon est admirable d'étendue, de grandeur et de gravité. Le voyageur y reste attaché, même après avoir contemplé des tableaux plus rares, en face de Blida. Le tombeau de la chrétienne, Kben Rumia, posé entre le lac Alula, qui dort à ses pieds, et la masse écrasée du chenois. Mazafran, la rivière aux eaux jaunes, qui débouche à travers le Sahel par une étroite ouverture où la mer paraît. Kalea, toute blanche, et qui le soir forme des pétillements singuliers sur les coteaux bruns. À gauche, la ligne profonde des montagnes de Miliana, étagée par triples assises et fermant la plaine énorme d'un rideau d'azur sombre, moiré et d'argent. Tout cela composé avec de belles lignes et consacré par des noms qui plaisent. C'est ici, mon ami, qu'autrefois, dans la joie de la première arrivée, reconnaissant enfin la vraie terre arabe après l'avoir longtemps imaginée, nous disions « Ô Palestine !» Il y a une heure que je préfère aux heures lumineuses dans cette ville en ruine et qui me réconcilie même avec son présent. C'est le soir à la tombée de la nuit. Le court moment d'incertitude qui suit immédiatement la fin du jour et précède l'obscurité. L'ombre descend, accompagnée, dans cette saison, d'un épais brouillard qui rend douteuse et bleuie l'extrémité des rues les plus courtes. Le pavé se mouille et le pied glisse un peu dans ces demi-ténèbres, car cette partie de la ville est très mal éclairée. Le côté du couchant nage alors dans des lueurs violettes. Les architectures deviennent singulières, et le ciel, qui peu à peu se décolore, semble, l'une après l'autre, les faire évaporer. On n'aperçoit plus que vaguement tout ce peuple étranger qui regagne les rues qu'il habite, s'y amasse confusément et les rétrécit. On entend autour de soi parler dans une langue rauque et un peu bizarre. On distingue la voix des femmes à leur parler plus doux et celle des enfants à des intonations criardes. Des petites filles passent, portant sur leur tête la planche au pain, et se glissent parmi la foule en criant « Balek !» On frôle, sans défriche finir aucune attitude, des femmes voilées que la blancheur de leurs vêtements fait reconnaître et qui semblent se dérober. Alors, pour peu qu'on ait le goût des rêves et des conjectures, il est possible de recomposer toute une société morte et permis de supposer beaucoup de choses qui n'existent plus en fait d'art comme en fait de galanterie.
Février 24. Je ne m'attendais guère à ce qui m'arrive. J'ai retrouvé ma mauresque inconnue du carrefour de Simham et del Shérif. Elle habite Blida, et pour dire les choses à la française, je suis autorisé à me présenter chez elle demain à midi. On tambourinait aujourd'hui vers 2 heures dans une petite rue du voisinage. Outre le bruit des crochets du bois frappant sur les peaux neuves, un cliquetis de castagnettes de fer et des voix de chanteurs nous arrivaient par-dessus les terrasses. « Venez-vous entendre un peu de musique ?» me dit Vandel. « Volontiers, lui dis-je. Et puisque nous voilà réduits au concert nègre, allons. » Je dois noter ici que mon ami Vandel, très indulgent d'ailleurs pour les Arabes, leur pardonne difficilement de n'être pas musicien. Ben, « Vous connaissez leurs prétentions, me disait-il chemin faisant. Ils ont la vanité de supposer que les fleurs de certaines plantes, en particulier du bouillon et de l'armoise, tombent de leurs tiges lorsqu'ils jouent de leur misoune. C'est une vieille imagination latine dont ils ont hérité je ne sais comment. » Ilicibus glandes cantataque vititibus ua decidit. La maison d'où venait le bruit avait un mur démoli sur la rue, de sorte que par une grande brèche ouverte à hauteur d'appui, nous pouvions voir ce qui se passait à l'intérieur à peu près aussi bien que si nous y fussions entrés. C'était une petite fête de famille où chacun faisait sa partie. On formait cercle devant le seuil d'une chambre basse, où se tenait assise, présidant la réunion, qui sans doute avait lieu pour elle, une jeune et jolie négresse, ayant la gorge découverte et allaitant un nourrisson complètement nu. Deux mauresques accroupies sur des tapis tenaient chacune une paire d'énormes castagnettes de fer, beaucoup trop lourdes pour leurs mains menues. Deux nègres frappaient en chantant sur des tambourins. Un troisième, debout à quelques pas de la nourrice, à moitié déshabillé, nu-tête et la ceinture au vent, exécutait des danses furieuses en l'honneur du nouveau-né. La cour était petite et presque entièrement plafonnée par un vaste figuier sans feuilles, mais tellement noueux et si branchu que la multiplicité de ses rameaux formait une ombre sur le pavé. Le pied de l'arbre trempait dans une flaque d'eau croupissante où s'agitaient des canards, et des poules attachées deux à deux par la patte, comme des prisonniers dont on se défie, se promenaient autour d'un fumier, très embarrassés de leur entrave, chacune tirant le fil à soie, sans parvenir à marcher d'accord. C'était, comme tu le vois, une scène à la flamande, on ne peut plus intime. Je ne composerai point le tableau ainsi, mais je te rapporte exactement ce qu'on voit. un jeune enfant, qui n'était point occupé dans ce concert, nous aperçut, vint ouvrir la porte et nous introduisit. On se salua du geste et brièvement, afin de ne pas suspendre la fête une seule minute. Le danseur activa sa danse, en précipita la mesure, frappa ses castagnettes avec d'autant plus d'entrain et de gaieté qu'il avait maintenant deux étrangers pour spectateurs. Il était hors de lui, inondé de sueur et tout semblable à du bronze qu'on vient d'arroser. Les mauresques avaient le visage découvert. Elles étaient jolies et bien mises, en tenue d'hiver avec le cafetan à manches par-dessus le corset. Leur habillement se composait d'un ramage de soie à fleurs et de dorures, et toute leur personne imbibée d'eau de senteur exhalait une intolérable odeur d'ambre. Pas un ne nous dit mot pendant une heure. Le nouveau-né, qui geignait en harcelant le sein magnifique de sa nourrice, était le seul dont on entendit la voix. Enfin, le nègre se lassa naturellement le premier. La musique aussitôt l'interrompit, et la fête finit comme finissent les fêtes de ce genre, où, chose incompréhensible, la lassitude vient toujours avant l'ennui. Nous prîmes congé, les gens de la maison, et les mauresques, qui n'étaient aussi que des invités, firent comme nous leur disposition de départ. Quand elles eurent repris leur haïk, remis leur masque de cotonnade blanche, et comme elles passaient devant nous aussi noblement voilées que dans la rue, Vandel les salua en arabe, et je l'imitai. Au revoir, monsieur, me dit en français la plus petite et la plus mince des deux femmes. Je reconnus le au revoir, monsieur, du carrefour d'Alger. Cette fois, le vieux Abdallah n'était plus là, et sans prendre le temps de délibérer, je l'ai suivi. Vous savez à qui vous avez affaire, me dit Vandel. Oh, je m'en doute, lui répondis-je, mais j'ai des raisons que je vous dirai pour m'intéresser à celle des deux qui m'a dit au revoir. Les deux femmes se séparèrent au bout de la rue. Je laissai s'éloigner la grande amie et j'accompagnai l'autre. Elle ne tourna pas la tête une seule fois, du moins je ne le vis pas. Après quelques circuits, elle arriva chez elle. Le quartier était désert, la rue arabe, la maison arabe. Elle poussa la lourde porte en s'y appuyant de tout le corps et disparut. J'arrivai sur ses pas et je vis la porte qui retombait pure par son propre poids et tremblait encore sur ses gonds. On n'avait pas mis l'arc-boutant et quelque chose comme un courant d'air la faisait par intervalles faiblement s'entrouvrir. J'attendis une demi-minute, incertain de ce que je devais faire. La porte se rouvrit. La femme était devant moi, qui me regardait à travers l'échancrure de son masque, avec des yeux dont je ne voyais qu'un point fixe et lumineux comme un diamant. « N'entrez pas, me dit-elle, en sabir, c'est-à-dire en italien barbare, mais venez demain à midi. » Te l'avouerai-je, mon ami, je fus pris au dépourvu par une cordialité si prompte. Je répétais seulement, oui, demain à midi. Vandel faisait sentinelle au bout de la rue. Eh bien, me dit-il, eh bien, j'irai demain. Je le mis en deux mots au courant de notre première rencontre. Il connaît Sid Abdallah qu'il ne connaît pas. Et le marchand est un homme de bien, à la loyauté de qui l'on peut se fier, et la vie qu'il m'a donnée de prendre garde vaut un conseil. Quant à la femme, ajouta Vandel, pour peu que vous teniez à savoir son histoire, nous irons trouver le barbier Hassan et nous le ferons causer, s'il est en humeur d'être indiscret. L'enquête est-elle bien utile dans une affaire de si médiocre intérêt? 26 février. Vandel m'a conduit hier soir chez le barbier Hassan. Hassan veut dire cheval. Mais proprement, ce mot signifie le plus bel animal et le plus beau. C'est un nom fier qui ne va pas toujours bien à ce qu'il porte. Pour notre ami le barbier de Blida, on pourrait croire que ses parents l'ont baptisé d'après la belle opinion qu'il devait avoir de lui-même. Hassan est un homme entre deux âges, ni beau ni laid, prétentieux dans sa mise et trop familier pour un arabe. C'est l'État qui le veut apparemment. Il voit et reçoit toutes sortes de gens. J'entends que les habitués prennent sa boutique comme un endroit public et s'y donnent rendez-vous sans plus de façon que dans la rue. Suivant sa coutume, il avait nombreuses compagnies. C'était quelque chose comme une soirée bourgeoise. On jouait aux dames et aux échecs, on fumait dans les pipes du maître de la maison. Le râtelier aux pipes de Hassan est le plus riche pompier du quartier. Et le Kawanji, d'à côté, apportait le café que chacun payait. Au moment où nous entrions, un long jeune homme au visage maigre achevait une partie de dame et disputait à son adversaire en lui poussant son dernier pion. Si tout ce qui on désire arrivait, le mendiant deviendrait bête. C'est un proverbe connu, fit observer Vandel, qui le prenant aussitôt par la main et l'amenant à moi, me dit « Mon cher, je vous présente l'homme le plus spirituel et le plus lettré des trois provinces. Taleb al-Azaouya, de mon ami Ben Hameda, le vaudevilliste. Vous pourrez ensemble causer de Paris, car monsieur l'habite, ajouta-t-il en me désignant. Et si Ben Hameda y a vécu ?» Si Ben Hameda, je l'appris de lui-même, est un élève du collège Saint-Louis. Il y passa, faisant ses classes et suivant les cours élémentaires d'histoire et de géographie, les 4 ou 5 années que dura son séjour en France. Le véritable motif de cette éducation parisienne, je ne l'ai pas su et probablement je ne le saurai point. Il y a de telles existences dans ce pays des sous-entendus dont l'origine est assurée de rester douteuse. Oh, j'ai presque tout oublié, me dit-il en cherchant ses mots, et je finirai par ne plus pouvoir parler français. C'est un esprit prompt, vif, enjoué, plein de réparties quand on s'y prête, et qui doit être singulièrement délié. Son éducation, commencée parmi nous, semble avoir développé certaines aptitudes, on ne peut plus rares chez le peuple arabe, même des hautes classes. Il a la démarche ouverte, la parole expansive, le geste démonstratif, la voix goguenarde, et toujours comme un sourire irrésistible dans le regard. De son passage au milieu de nos universités, il n'a gardé que ce qu'il a voulu, l'amour des lettres et le goût facétieux des proverbes et des calembours. C'est à cause de cette légèreté quasi française et de cet atticisme littéraire que Vandel l'a surnommé le vaudevilliste. Sa mise était celle des maures, et comme il portait le turban d'hiver, il avait le cou, la tête et le visage élégamment enveloppés d'une écharpe de mousseline à petits pois roses. Son adversaire, celui contre lequel il avait perdu, était un arabe de la plaine, un peu court, un peu gros, barbu, très basané, en burnous, en haïk et par-dessus, habillé comme les cavaliers de la veste et des gilets brodés de soie. Un mince cordonnet de soie grise à gland d'or accompagnait autour de sa tête le krit, ou corde en poil de chameau noir. Un chapelet lui pendait au cou et 2 ou 3 amulettes étaient attachées dans sa coiffure. « Regardez bien celui-ci, me dit Vandel. C'est un homme de sabre. Je vous dirai comment il s'en sert à l'occasion. » La réunion se composait en outre de bourgeois du voisinage, moitié marchands d'épices et de tabac, moitié rentiers, gens âgés, grisonnants, parlant à voix basse, fumant lentement, prudemment couverts de burnous de chambre qui les habillaient comme des douillettes, avec des turbans aux plis méthodiques, des gilets fermés, des bas de laine écrus, qui les chaussaient jusqu'aux mollets. Les savates étaient alignés par terre devant les banquettes, et chacun d'eux avait à portée de la main soit la courte bougie rose, soit la lanterne de papier peint qui devait l'éclairer au retour, car la nuit était fort obscure. Je voudrais te faire comprendre à peu près de quoi l'on causa, car des gens de vie casanière ne prendraient pas rendez-vous à pareille heure du soir chez un barbier dans l'unique intention d'y former cercle et de se taire. Or, la conversation arabe ressemble à toutes les conversations oiseuses où l'inutilité des choses dites ne s'explique que par une contagieuse démangeaison de la langue, mais avec des modes particuliers que la pantomime traduirait plus aisément que la parole écrite. Ce sont d'abord les salutations de l'arrivée, qui reviennent à temps égaux comme des retours voulus de politesse, et qui marquent le rythme du discours, en fixent les repos, en signalent les reprises. Politesse sur tout, question sur tout, bénédiction sur tout, excepté sur la femme dont jamais on ne doit s'informer. Puis des curiosités comme les nôtres, mais qui ne sont plus les nôtres. Un commérage en sourdine et tout à fait local sur la politique, sur les affaires françaises, sur des intérêts minimes de municipalités, de villes ou de tribus, puis encore des anecdotes d'un autre monde et de l'autre monde. Vieilleries à dormir debout, qui depuis leur origine ont conservé le don d'émouvoir, de rendre attentif ou de faire rire avec satisfaction ceux des auditeurs qui les connaissent le mieux. Chacun les sait par cœur, et chacun cependant se donne tour à tour le plaisir naïf de les entendre ou de les réciter. Tout cela est entremêlé de jeux de mots, la plupart combinés pour l'oreille, reposant sur des assonances, et par cela même intraduisibles, puis de maximes, de concetti, de proverbes, et sous ce rapport, le scribe de Ben Hamida est bien l'expression fleurie et littéraire du génie primordial arabe. Vandel raconta dans le style obligé, c'est-à-dire avec les onomatopées les plus figuratives, le siège récent dont il avait été témoin. Il reproduisit le bruit du canon par un mouvement des lèvres très imitatif, et voulant donner l'idée d'une bataille acharnée, il répéta le plus longuement et le plus fréquemment qu'il put les « bam, bam, bam » interminables par lesquels un arabe accompagne ordinairement le récit d'une aventure où la poudre a beaucoup parlé. Il fut ensuite question des djérades, les sauterelles, qui, dit-on, fourmillent dans le sud et qui bientôt vont se mettre en voyage. On a pris des mesures, commandé des corvées, organisé des battues pour les détruire. Échapperont-elles ? Et à ce propos, un ancien blidien, le marchand Ben Saïd, raconta, d'après son père, qui le tenait de son père, lequel avait assisté, très vieux déjà, mais de sa personne à ce grand désastre, l'invasion sans pareille de 1724 à 1725, comment ce fut une plaie comparable à celle décrite dans les histoires juives, comment les djérades avaient tout détruit, mais surtout les vignes, mangeant les pampres, puis le sarment, puis dévorant jusqu'au cep lui-même. Le feu n'aurait pas été plus prompt ni plus funeste. Jamais depuis les vignes n'ont produit, et le vin de Blida, fameux jadis, n'existe plus depuis cette époque. On en extermina des milliards de milliards, sans que le nombre parût diminuer. Le ciel en était obscurci, la ville encombrée, l'eau des sources empoisonnée. On se vengea comme on put de ce fléau médit, on en fit des fritures, des confitures, des salaisons et du fumier. Enfin, fort vent du sud s'étant élevé, emporta vers la mer cette armée de bêtes enragées et les y noya. D'après quoi, elles se changèrent en crevettes, et les gens du Fleiss les y pêchèrent, ajouta Ben Hamida, qui paraissait gayer beaucoup des superstitions de son pays. Là-dessus, on disserta des monstres, depuis le dragon des Hespérides jusqu'au Niam Niam. L'Afrique a toujours passé pour en produire. L'Afrique produit toujours quelque chose de nouveau, dit Vandel, qui fit à son tour l'érudit. Ceci est une maxime ancienne. Et après avoir cité Aristote, il en donna d'après Pline le commentaire savant que voici. Mais la rareté de l'eau obligeant les animaux à s'assembler pêle-mêle près d'un petit nombre de rivières, les petits ont toutes sortes de formes étranges. Vu que les mâles, soit de gré ou de force, s'accouplent indistinctement avec les femelles de toute espèce. Le barbier Hassan opina que la chose était évidente. Les vieillards furent de l'avis de Hassan. Ben Hamida seul n'admit pas cette explication comme le dernier mot de la science européenne et sourit. La dernière histoire. On parla de Si Mustapha Ben Rumi, autrement dit le commandant X, et de sa fameuse aventure avec Béchir. Oh, l'anecdote est chevaleresque. Ce fut l'arabe en burnous, Adjout, qui la raconta non pas bien entendu comme une histoire nouvelle, car elle court les rues, mais comme un récit qu'un homme de sa race ne peut jamais répéter trop souvent. La voici, enfin du moins très abrégée. Le commandant X arriva tout jeune à Alger vers la deuxième année qui suivit la prise. À cette époque, Alger n'avait pas de collège, et la première éducation de l'écolier se fit sur la place publique avec les enfants du peuple indigène. Il apprit là diverses choses, qu'à pareil âge on apprend sans maître, entre autres la langue du pays et les plaisirs de l'indépendance. Mais on ne trouva pas que cela valût des leçons de famille. On le corrigea. Ah, la correction lui déplut. Et comme il n'aimait pas la contrainte, il quitta sa famille et s'enfuit. Arrivé dans le Sahel d'Alger, au moment de descendre vers la plaine et peut-être de réfléchir au hasard de son entreprise, il rencontra deux cavaliers arabes qui voyageaient ou maraudaient. « Qui es-tu ? » « Un tel, fils d'un tel. »« Où vas-tu ? » « Devant moi. »« Veux-tu venir chez les Adjout ?» Les Adjout étaient alors un grand sujet d'effroi. Bravement, l'enfant répondit « Je veux bien. » Un des maraudeurs le prit en croupe et le soir même, on le conduisait tout droit à la tente du califat Béchir. « C'est un otage, » dirent les cavaliers. « Ah non pas, » dit Béchir, « c'est un enfant. »« Et ce sera le mien, » dit la femme de Béchir, qu'il adopta comme un présent du hasard, le fit circoncire et le nomma Mustapha, c'est-à-dire le purifié. Mustapha grandit sous la tente, il brunit au soleil, tout de suite il mania les sabres. Élevé par des centaures, il devint ce qu'il est, un extraordinaire cavalier. Quand il eut 15 ans, on lui donna un cheval et des armes. Quand il en eut 18, un beau jour, l'ennui de la tente le prit, comme l'avait pris déjà l'ennui de la maison. La guerre était partout. Il avait à choisir entre deux patries, l'une natale et l'autre adoptive. Il se décida pour la première. Il quitta le Douar, non pas la nuit, mais en plein jour. Il dit à Béchir, « Je m'en vais. » Et il courut à Blida s'enrôler dans l'Espahi. De Blida, il poussa Coléa. De libre qu'il était, il devint soldat, mais toujours plutôt arabe que français. 2 ans plus tard, une razzia fut organisée contre les Hadjout. Il fallait un guide pour diriger la colonne, un guide sûr qui connut le pays, la langue et surtout les habitudes de l'ennemi. Mustapha fut désigné. L'affaire eut lieu, on se battit. Vers la fin de l'action, 2 cavaliers se rencontrèrent, échangèrent le feu de leurs pistolets, puis se chargèrent pour s'aborder, le plus jeune avec le sabre, le plus âgé avec la lance. Au moment où les chevaux allaient se toucher, les combattants se reconnurent. « C'est toi, Mustapha ! C'est toi, Béchir !» Béchir, au dire des Arabes, était un héros, beau, intrépide, et montant des chevaux admirables. Il s'arrêta tout droit devant le jeune homme, fit seulement le geste de lui effleurer l'épaule afin de ne déchirer que le burnous, et lui jeta sa lance. « Prends-la, dit-il, va la porter au général et dis-lui que tu as enlevé la lance de Béchir. » Puis, désarmé, les deux mains vides, il tourna bride et disparut. Ainsi finit la soirée par une légende héroïque. Nous nous séparâmes vers 10 heures, au moment où le clairon de la caserne des Turcs s'ornait de couvre-feu. Chacun alors alluma sa lanterne, chaussa ses babouches, releva le capuchon de son burnous, et nous sortîmes tous ensemble, excepté Hadjout, qui resta chez le barbier et parut devoir y passer la nuit. Ce fut dans la rue qu'eurent lieu les « Sabal alaykoum et alaykoum salam » du départ. Ce n'est pas peu de chose qu'un ami, nous dit Amina en prenant chaleureusement les mains de Vandel et les miennes. Et ce n'est pas trop de 1000. Puis sur ce dernier proverbe, dit de la façon la plus aimable, le jeune Taleb de Zaouïa, ex-collégien de Saint-Louis, s'en alla en chantonnant par les rues tranquilles. Charmant mais hypocrite, me dit Vandel quand nous fûmes seuls. Homme à la langue douce et qui saura téter les lionnes. Quant à l'arabe, continua-t-il, celui que nous laissions chez Hassan, il a sur la conscience un petit péché qui le rend un peu taciturne, car il sait que la justice a les yeux sur lui. Un soir qu'il rentrait au douar avec un cousin dont il avait, dit-il, à se plaindre, tous les deux à cheval et par des chemins écartés, il laissa son compagnon passer devant, prit un pistolet, le lui déchargea dans les reins. Le cheval, sans cavalier, regagna le douar. Le cadavre ne fut découvert que quelques jours après, parce qu'on vit beaucoup de corbeaux et de milans tourner en cercle au-dessus des broussailles. La blessure était impossible à reconnaître sur un corps mis en lambeaux par des bêtes de proie. Cependant, on soupçonna la vérité, et Amar ben Arif fut interrogé, mais l'affaire en resta là, faute de preuves. C'était une querelle de famille, rancune de jalousie, je crois. Le fait du coup de pistolet est positif. C'est Amar ben Arif lui-même qui me l'a conté. Ben, « Pour ce qui vous regarde, ajouta Vandel, voici quelques détails. » La femme est à Blida depuis un mois. Elle y vit seule avec sa domestique, Asra, la négresse, qui faisait aujourd'hui ses relevailles. Il n'y a dans sa maison, dont vous connaissez la porte, que son petit ménage et des juifs. Elle s'appelle Hawa. Son amie s'appelle Aishuna. On fêtait aujourd'hui la naissance du premier enfant d'Asra. Le mari était ce nègre beau danseur qui s'étant fatigué pour exprimer la joie qu'il avait d'être père. Avez-vous remarqué que l'enfant n'est presque pas noir? C'est un miracle, m'a dit le malicieux barbier. De mauvais plaisants en ont déjà fait la remarque. Il paraît que le père a répondu « Chouya, chouya, sala negro ». Patience, patience, il deviendra nègre. En attendant, il fait auprès de son fils le métier de corribante et l'élève, ni plus ni moins qu'un jeune Jupiter, au bruit des danses et des boucliers des reins. Nous retournerons au bureau de renseignement quand il faudra. Mais ménageons Hassan, puisque Ben Abida nous a donné le goût des proverbes. Souvenez-vous de cette maxime pour votre gouverne. Il y a 5 degrés pour arriver à être sage. Se taire, écouter, se rappeler, agir, étudier. Ceci est de la sagesse arabe, c'est-à-dire de la politique. Il est 10 heures du matin, mon ami, et dans 2 heures j'irai voir. Si l'appartement d'Aouar ressemble à l'admirable tableau de Delacroix, les femmes d'Alger.